Alléluia.
Seigneur, nous sommes reconnaissants. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ta grâce, reconnaissants pour nos familles, reconnaissants pour notre maison, reconnaissants en tout point. Oh Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce. Nous te rendons des actions de grâce. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci Jésus, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, nous avons prié et le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Alors, la semaine dernière, nous avons partagé sur un thème, vaincre les ennemis de notre destinée. C'est ça, n'est-ce pas? Ce soir, nous allons, cet après-midi, nous allons évoluer et nous allons partager sur un autre thème, identifier le lieu de sa destinée. Alléluia. Identifier le lieu de sa destinée. Ou bien, comment identifier le lieu de sa destinée. Vous savez, chaque homme a un lieu où Dieu l'a établi pour briller. Alléluia. Alors, je vous donne une image. Lorsque vous regardez au ciel, vous pouvez voir les étoiles briller, n'est-ce pas? En une nuit étoilée, vous verrez les étoiles briller, mais vous ne verrez jamais une étoile occuper la place de l'autre. Alléluia! Ou vous ne verrez jamais l'embouteillage des étoiles. Chacun a sa position pour briller. Alors, il n'y a que sur la terre que des gens croient qu'en prenant la place de l'autre, ils vont pouvoir briller pour l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alléluia! Ce n'est pas possible. Alors, je voudrais que nous lisions un texte. Nous allons prendre notre premier texte dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Alléluia. Jérémie, chapitre 18. Le verset 1 et 2. Alléluia. Le verset 1 et 2. Jérémie, chapitre 18, le verset 1 et 2. Et nous prendrons un autre texte au livre de Genèse. Genèse, chapitre 37. Nous prendrons 37 à partir du verset, à partir du verset 9. Alléluia. À partir du verset 9 et 10. Genèse 37, 9 à 10. Alléluia. Nous allons commencer avec Jérémie 18, le verset 2. Jérémie 18, le verset 2. La parole 1 et 2. La parole de Dieu déclare, est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole, la lecture de la parole du Seigneur? La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je te ferai entendre mes paroles. Allons-y dans le livre de Genèse. Commençons par Genèse chapitre 12. Lisons les trois premiers versets. Genèse chapitre 12, les trois premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Allons-y au chapitre 37. À partir du verset 9 au verset 10, je pense, 9 et 10. Alors, il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici, le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprima et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi, que le Seigneur bénisse sa parole. Asseyons-nous bien aimés. Alors, ce matin, je voudrais que chacun comprenne que tout homme a une destinée. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est le plan, c'est le projet que Dieu a formé à l'endroit de chaque homme sur terre. Amen. C'est le projet que Dieu a formé à l'endroit de chaque homme, chaque femme sur terre. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie nous dit que quoi? Car j'ai formé pour vous des projets et de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous comprenons par là que Dieu a un projet pour chaque homme. Et c'est ça sa destinée. C'est ça sa destinée. Il est donc important, bien-aimé, de connaître sa destinée, de connaître les projets de Dieu pour toi. Si tu ne connais pas les projets de Dieu, tu ne pourras pas l'exprimer à son niveau le plus excellent. Alléluia. Et donc, il est également important que nous comprenions que nous avons des aides de destinée et que nous sachions qui sont ces personnes que Dieu a assignées aussi durant notre séjour sur la terre pour nous tenir la main et nous introduire là où Dieu veut que nous y allions. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, je vous ai parlé des étoiles. Revenons un peu sur Genèse chapitre 37. Vous verrez que Dieu va donner un songe à Joseph, un songe important. C'était le deuxième, après qu'il ait eu le premier, qui parlait des gerbes de blé. Alléluia. Vous verrez ça au verset 6, plus en haut. Et Dieu va lui montrer un songe. Et dans ce songe, Joseph lui-même va dire, il va voir dans son songe le soleil, la lune, lui-même et les 11 étoiles. Et 11 étoiles se prosternaient devant lui. 11 étoiles se prosternaient. Et son père, dans la colère, va interpréter le songe. Il va interpréter le songe. Dans l'interprétation, il va s'identifier comme le soleil. Il va identifier sa femme comme la lune. Et il va identifier les frères de Joseph comme des étoiles. Alléluia. Il va dire, moi et ta mère et tes frères devront nous venir se prosterner devant toi. Ce n'est pas ton histoire, Joseph. Tu ne veux pas te calmer. Alléluia. Mais ce qui est intéressant, c'est que Joseph lui-même était une étoile. Alléluia. Joseph lui-même était une étoile. Il n'était ni le soleil, il n'était ni la lune. Mais il était aussi une étoile. Parmi les 11, il était la 12e étoile. Vous voyez? Chaque personne est une étoile. Et vous allez, si vous regardez la vie de Joseph, ses frères vont passer le temps à le combattre, comme des étoiles qui combattent d'autres étoiles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, pendant qu'ils vont essayer d'essayer d'éteindre la lumière de son étoile, au contraire, ils vont l'introduire là où son étoile doit briller. Alléluia. Alors, je voulais dire à quelqu'un, quelles que soient les batailles par lesquelles tu passes, Dieu t'amène quelque part. Dieu va quelque part avec toi afin que l'étoile qui est en toi puisse briller. Alléluia. Rappelez-vous, lorsque Jésus est né, c'est toujours par une étoile qu'on a su qu'il était là. Les mages ont repéré son étoile et sont allés chez Hérode dire que cette étoile n'est pas n'importe quelle étoile. Cette étoile, c'est l'étoile d'un roi. Alors, dans ton étoile, bien-aimé, est inscrit ton identité réelle. Tu seras un homme d'affaires, tu seras un médecin, tu seras un docteur, tu seras... C'est pourquoi l'ennemi, le diable, a créé à côté de cette confusion céleste, le zodiaque. Alléluia. Vous appelez ça comment? Le zodiaque? L'astrologie. Alléluia. L'astrologie. Il y a des gens qui ne font rien chaque matin s'ils ne lisent pas ce qu'on a dit sur le bélier. Alléluia. Ils ne font rien s'ils n'ont pas lu ce qu'on a dit sur vierge, sagittaire, taureau. Alléluia. Lion, gémeaux. Alléluia. Vous voyez? Les mages ont identifié l'étoile, ont identifié l'identité de celui qui portait cette étoile. Ça veut dire que même dans le monde des ténèbres, quand on voit ton étoile, on connaît ton identité. C'est pourquoi l'ennemi s'attaque à ta vie de manière spécifique, parce que ton étoile renferme ta destinée. Amen. Je suis en train de travailler sur un thème très intéressant. On va en parler pendant les 40 nuits de prière. Alors, et pendant que je travailler sur ça, l'Esprit de Dieu me rappelait, me montrait, et ça parle du cordon ombilical. C'est pourquoi nous allons beaucoup travailler sur le cordon ombilical et le placenta. Et Vous savez, dans certaines régions d'Afrique, je ne vais pas citer ces régions, dans certaines tribus, les femmes qui accouchent, juste avant qu'elles ne sortent de la chambre d'accouchement, le cordon ombilical, on le leur fait manger. Ne dites pas, ce sont des rites dans certaines familles. C'est une manière pour cette famille de lui permettre de compenser les forces qu'elle a perdues en propulsant l'enfant hors de sa vie. D'autres, dans certaines familles, sèchent le cordon ombilical. On fait sécher ça et on le garde. Chaque fois que l'enfant a un problème, il vient poser les mains dessus et il convoque les ancêtres et il s'en va. Et d'autres, on l'écrase en poudre et on fait un repas avec que toute la famille mange. Alléluia. Bon appétit. Ceux qui sont dans ce genre de services traiteurs. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, pour dire que quoi? Le placenta ou le cordon ombilical représente la destinée d'une personne. Je vous ai dit que scientifiquement, un cordon, un placenta a une durée de vie après être sorti du sein de la mère de plus de 6 à 7 heures. Il est encore vivant. Ça veut dire que celui qui vole ou prend une parcelle de ton cordon, de ton placenta, affectera ta destinée. Alléluia. Alors, il est important toujours d'avoir un regard très pointu sur ton placenta, ton cordon ombilical. Alléluia. Alors, nous revenons un peu dans notre histoire et donc nous voyons que Joseph était dans une étoile parmi d'autres étoiles. Mais cette étoile ne pouvait pas briller à côté de son père. La preuve, son père le lui a dit qu'on ne peut pas, à l'état actuel des choses, ni moi, ni ta mère, ni tes frères ne pouvons se prosterner devant toi, Joseph. C'est faux. Alléluia. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Je suis quand même ton père. Amen. Je suis ton père. Et je suis le patriarche. Après mon père, Dieu m'a établi. Donc, laisse tes histoires, Joseph. Il faut te calmer. Alléluia. Il faut te calmer un peu. Calme-toi. Amen. Alors, lorsque nous évoluons, bien-aimés, nous comprenons que lorsque Dieu appelle un homme, il l'appelle à un endroit précis. Lorsque Dieu appelle un homme, il l'appelle à un endroit précis. La Bible nous dit que lorsque Dieu appela son fils dans le désert, Dieu va appeler son fils où? Dans le désert. C'est pourquoi Jésus va se retrouver au désert. Parce que c'est le lieu où Dieu l'avait choisi pour amplifier sa destinée. C'est dans le désert qu'il a vaincu le diable. Alléluia. Mais aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas aller là où leur destinée doit exploser parce que du point de vue physique, ça ne ressemble à rien. Du point de vue physique, c'est difficile. Du point de vue physique, c'est oppressant. Du point de vue physique, c'est inadapté à leur intérêt. Est-ce quelqu'un avec moi? Donc, c'est pourquoi, bien-aimé, le lieu où Dieu t'amène, le lieu de ta destinée, est un lieu que Dieu a choisi pour pouvoir exposer et révéler la puissance et l'éclat de ton étoile. Mais généralement, ce lieu n'est pas agréable. Nous parlons ce matin de comment identifier le lieu de sa destinée. Quelqu'un, le lieu de ma destinée, c'est lorsque je vais avoir la promotion. Bam. Je vais avoir les portes ouvertes, je vais voyager, je vais avoir tel visa ou tel... Non. Le lieu de ta destinée est en général un lieu qui n'est pas plaisant pour toi-même. N'est pas plaisant pour toi-même. Alléluia. N'est pas plaisant pour toi-même. Alors, lorsque Dieu donc appelle un homme, il appelle à un endroit précis qui peut être un lieu spirituel ou géographique. Ne pas comprendre l'importance d'un lieu peut frustrer un homme ou un groupe de personnes dans la vie. Regardez Jacob, lorsqu'il fuit devant son frère, il rentre, il fuit, il arrive à Bethel, qui est le lieu de sa bénédiction. Il n'est même pas conscient. Il y a des gens qui dorment dans les lieux de bénédiction sans s'en rendre compte. La Bible dit qu'il arrive à Bethel, il se couche, il prend une pierre comme oreiller, il dort. Et c'est quand il pose la tête et qu'il réussit à dormir, qu'il a une vision. Il voit le ciel s'ouvrir, il voit le Seigneur assis sur le trône, il voit les anges monter et descendre et il entend le Seigneur lui parler. Que je suis le Dieu de ton père, je suis le Dieu de ton grand-père, Abraham, Isaac. Alléluia. Et je suis aussi ton Dieu. Là où tu vas, je vais être avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un morceau d'or brut n'a pas la même valeur qu'un morceau d'or raffiné lorsqu'il est exposé dans une bijouterie de luxe ou porté au cou d'une grande reine. Vous voyez? Le lieu peut ajouter de la valeur ou dévaloriser une chose ou une personne. C'est pourquoi, bien-aimé, en tant que femme ou homme de destinée, vous ne devez pas être n'importe où. Alléluia. Vous ne devez pas être n'importe où, au milieu de n'importe qui. Parce que le lieu, soit ça ajoute de la valeur, soit ça dévalue votre vie et votre destinée. Lorsque nous allons dans le livre de Jérémie, chapitre 18, le verset 2, nous découvrons que Dieu a à cœur de parler à Jérémie. Il veut parler à Jérémie. Mais alors, il dit à Jérémie, écoute Jérémie, pour que je puisse te parler, il faut que tu ailles dans la maison du potier. Amen. Là-bas, je te ferai entendre ma voix. Mais posons-nous la question ensemble. Amen. Mais ça veut dire que là où Jérémie était, qu'il a entendu la parole d'aller là-bas, n'est-ce pas, il n'a pas entendu la parole. Ça veut dire que là où il était, il entendait quand même une parole qu'il a quand même demandé d'aller à un autre endroit. Ça veut dire que quoi, bien-aimé? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu peut parler partout, mais il y a des endroits spécifiques où sa voix est plus amplifiée, où sa main est plus amplifiée, où sa puissance est plus amplifiée. Dieu est partout, mais il n'agit pas partout. Alléluia. Voyez? Il lui demande d'aller de descendre dans la maison du potier. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a certaines choses que Dieu veut vous dire, Dieu veut faire avec vous, mais il veut que vous soyez quelque part, dans un lieu. Parfois dans une église, parfois au milieu de certaines personnes, parfois à la rencontre de quelqu'un de manière spécifique. Alléluia. Il y a un bon samaritain que tant que tu ne le rencontres pas, tes blessures ne seront jamais cicatrisées. Alléluia. Amen. Et c'est très important. Si vous n'avez pas la compréhension, vous la manquerez. Dans Genèse chapitre 12, les trois premiers versets que nous avons lus tout à l'heure, nous découvrons que Dieu va dire à Abraham une instruction importante. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, là-bas, dans ce pays-là, il y a une chose que je veux faire. Je veux faire de toi une grande nation. Abraham n'était pas une grande nation, c'était une famille de nomades. Mais il n'était pas encore une nation. Qu'est-ce qui constitue une nation? Les éléments pour une nation, c'est quoi? Première chose, c'est un territoire. Alléluia! Tu ne peux pas être une nation si tu n'as pas de territoire. C'est pourquoi de temps en temps, vous voyez des gens se battre pour avoir un territoire pour revendiquer la nation là. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle Amazonie. Ils se battent pour avoir l'espace là, n'est-ce pas? Pour pouvoir dire, OK, nous maintenant, on est une nation reconnue. Mais tant que tu n'as pas de territoire, tu n'es pas de nation. Tu n'es qu'une famille de nomades. Et beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas de territoire. Ils fonctionnent comme des nomades sur la terre. Ils n'ont pas de lieu fixe. Ils n'ont pas de lieu où ils puissent se rassembler dans la famille. C'est pourquoi rien de bon ne peut leur arriver. Il y a des gens que en août comme ça, pendant que tout le monde va dans leur village en vacances pour les réunions, eux, ils ne peuvent aller nulle part. Ils restent là. Ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils n'ont pas de point de chute. Alléluia. Ils n'ont aucun point de chute. Et tant que tu n'as pas de point de chute, tu n'as pas de fondement. Et tant que tu n'as pas de fondement, tu n'as pas de point de départ. Alléluia. Tu n'as pas de point de départ. Et Dieu lui dit, sors, va-t'en. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Alors, n'oubliez pas, bien-aimé, qu'Abraham était un homme riche. Abraham était un homme riche. Rentrons en arrière. Genèse chapitre 11. Regardons ce que la Bible nous dit à partir du verset 26. La Bible dit Térah, qui est le père d'Abraham, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. Voici la postérité de Térah. Térah engendra Abraham, Nahor et Haran. Haran engendra Lot et Haran mourut en présence de Térah, son père, au pays de sa naissance à Ur en Chaldée. Abraham et Nahor prirent des femmes. Tu ne peux pas avoir plusieurs femmes si tu n'as pas les moyens. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un pauvre ne peut pas épouser plus d'une femme. Même d'abord une, ça le dépasse. Alléluia. Amen. Vous allez voir beaucoup de gens qui ne rient pas à se marier. Ils vont tout dire, c'est l'argent. Je n'ai pas encore l'argent. Quand j'aurai l'argent, je vais me marier. Alléluia. Parce que ça demande un certain entretien. Regardez la suite. Il dit, la Bible prie des femmes, le nom, nanana, et la femme était. La Bible dit, verset 31, Térah prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Il sortit ensemble d'où en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Il vint jusqu'à Canaan, jusqu'à Caran, et ils y habitaient. Alléluia. La Bible nous montre clairement ici que cet homme avait toute une famille qui l'avait la charge. Ça veut dire que quoi? Abraham était déjà initié dans la richesse. Vous allez voir que la suite de son histoire, il va avoir une servante qu'on va appeler Agar, n'est-ce pas? Il va avoir une servante qu'on va appeler Agar. Ça veut dire que dans la maison d'Abraham, il y avait déjà des servantes. Alors, il ne peut pas avoir des servantes si tu n'as pas les moyens. Alléluia. Dieu lui dit donc, je te bénirai. Alors, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais pas être béni. Tu peux avoir beaucoup de réussite, mais pas être béni. La bénédiction, c'est cette parole qui porte la richesse d'une génération à une autre. Alléluia. Et qui transmet ça dans vos gènes. Vous voyez, il dit, je te bénirai et rendrai ton nom grand. Abraham n'avait pas un nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Dieu voulait bénir Abraham, mais il lui a dit que sa bénédiction ne se trouvait pas dans la maison de son père. Il lui a dit que sa bénédiction ne se trouvait pas dans sa patrie. Il avait son lieu à lui. Là où ton père a réussi, ce n'est pas le même endroit où toi tu vas réussir. Amen. Là où ton père a prospéré, ce n'est pas le même endroit que toi tu vas prospérer. Là où ta mère, le domaine d'activité dans lequel ta mère a réussi, ce n'est pas le même domaine dans lequel toi tu vas réussir. Alléluia. Chacun a son appel. Chacun a sa grâce. Alléluia. Chacun a sa grâce. Et ce matin, je voudrais prier pour quelqu'un. Que Dieu te montre ton lieu de bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te montre ton lieu de bénédiction au nom de Jésus. Que Dieu te révèle ton domaine de compétence de bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé. Il devait quitter la maison de son père, quitter sa communauté pour se rendre à un endroit où Dieu devait le lui montrer. Dans la Bible, Il y a plusieurs exemples de personnes que Dieu a déplacées, sciemment ou pas, pour qu'elles accomplissent leur dessein, leur destinée. Amen. Et parmi ces personnes, nous avons Joseph. Joseph a été déplacé. Rappelez-vous son songe. Son songe ne pouvait pas s'accomplir à côté de son père, puisque son père était le patriarche. C'était le prophète de Dieu. Et il lui a dit clairement que mon fils, ici, là, il n'y a qu'un chef. Il n'y a qu'un seul chef, et c'est moi. Donc, tu n'as qu'à aller ailleurs devenir chef. Alors, Dieu va donc utiliser la haine, la méchanceté des frères de Joseph pour l'amener dans le lieu de sa destinée. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi parfois, pour arriver au lieu de ta destinée, tu vas passer par certaines fausses accusations. Tu vas passer par certaines hontes, par certaines humiliations. Alléluia. Et si tu te focalises sur les gens, tu vas rater le plan de Dieu. Parce que c'est Dieu qui te transporte par ses mains en utilisant des vases humains pour t'amener là où il veut que tu exploses. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Joseph a été déplacé en tant qu'esclave en Égypte, mais c'est là qu'il est devenu grand et qu'il a accompli sa destinée. Esther a été amenée en captivité à Suse. Alléluia. Esther, son nom était lequel? Hein? Adassa. Alléluia. Adassa a été amenée comme esclave. Et Esther est devenue reine. Alléluia. Adassa était esclave, Esther est devenue reine. Mais il fallait qu'elle vienne en captivité à Suse, la capitale de Babylone. Alléluia. Parfois, certaines captivités vont te propulser dans ton lieu de destinée. Alléluia. Parfois, certaines captivités, parfois, certaines duretés de la vie, parfois, certaines injustices vont t'amener là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. Est-ce que je peux aider quelqu'un? Bien-aimé, la plupart des temps, ceux qui t'aiment ne t'aideront jamais à atteindre le plan de Dieu. C'est ceux qui te détestent. Quelqu'un n'a pas dit amen. Parce que ça fait mal, n'est-ce pas? Alléluia! Ceux qui t'aiment ne t'aideront jamais à atteindre le plan de Dieu. C'est ceux qui te détestent, c'est ceux qui t'insultent, c'est ceux qui te méprisent qui vont t'aider. Alléluia. Ton plus grand fan club, ce sont tes adversaires. Il y en a d'autres qui se sont inscrits depuis des générations dans le fan club. Donc, quand il meurt, son fils continue à te haïr. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu a ses âmes qui sont différentes de nos âmes. Dieu a ses instruments qui sont différents de nos instruments. Si tu te focalises sur l'être humain, tu vas dire, ah, c'est grave. Ma vie est foutue. Mais Dieu va quelque part avec toi. Dis à quelqu'un, Dieu va quelque part avec toi. Dieu va quelque part avec toi. Si la personne dort, réveille-la et dit, Dieu va quelque part avec toi. Alléluia. Dieu va quelque part. C'est pourquoi Jacques nous enseigne clairement que nous ne devons pas regarder. Nous devons regarder les diverses épreuves auxquelles nous sommes confrontés avec une joie parfaite. Parfaite. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Alléluia. Jusqu'au verset 3. Sachant que cette épreuve de notre foi-là produit en nous quoi? La patience. La patience. Bien-aimé. Il y a des choses que tu ne pourras jamais avoir dans ton impatience. Alléluia. Ça va chauffer. Bien-aimé, si la pâte doit être gâteau après 30 minutes, après 20 minutes, ce sera qu'une pâte foirée. Amen. Donc, il faudra attendre. Si la pâte sort plus tôt que prévu du four, ce sera bon pour être jeté à la poubelle, n'est-ce pas? Voyez, Dieu va utiliser ses instruments pour conduire Joseph. Esther, où Dieu va transformer tous ses malheurs en bien. Et elle va devenir reine et la deuxième personnalité la plus influente du monde, la plus influente du monde, bien-aimé. Est-ce que vous savez que Babylone, à cette époque-là, était près de 145 provinces? C'était la moitié de la terre. Et Esther en était la souveraine numéro 2. Amen. De même, Dieu, pour pouvoir amener Joseph, Moïse, à être le plan de Dieu, va l'amener où en Égypte? C'est là-bas, chez ses ennemis, qu'il va être élevé. On va lui donner du biberon. On va lui donner une nounou. Alléluia. On va même payer sa maman pour venir lui donner la tétée. Et sa maman va l'élever avec le doigt sur la bouche. Elle ne dit jamais que c'est toi la mère. D'ailleurs même, elle ne savait même pas que c'était son enfant. Parce que quand sa sœur l'accompagne, la princesse égyptienne voit l'enfant. Elle récupère l'enfant. Elle apparaît. Elle dit, ah, comment vous allez pouvoir aider? Elle dit que je connais une dame qui peut. Et il ne pouvait avoir que la mère de Moïse parce que son lait coulait encore, non? Amen. Une vieille maman qui est déjà passée en ménopause ne pouvait pas. Une jeune fille qui n'avait pas encore enfanté ne pouvait pas. Alléluia. Il fallait une maman qui venait à peine de mettre au monde. Alléluia. Amen. Et donc, vous voyez, Joseph, Moïse a dû s'installer en Égypte avec même après la rencontre avec le buisson ardent. Il a fait 40 ans dans le désert à élever les moutons de son beau-père. Quand le Seigneur lui apparut dans le buisson, Exode chapitre 3, le Seigneur va dire maintenant, va en Égypte. C'est maintenant ton lieu de résidence. C'est là-bas que je vais mener toute ma bataille pour libérer mon peuple. Moïse dit que, papa, Seigneur, il y a d'abord un mandat d'arrêt sur moi là-bas. Alléluia. Tu n'es pas au courant que tu es quelqu'un dans la colère. Et le Seigneur va dire, rentre, c'est là-bas que je vais gérer les batailles. Parfois, c'est au milieu de nos challenges les plus complexes que la lumière de Dieu devient plus évidente. Que la lumière de Dieu devient plus évidente. Ésaïe chapitre 9, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voit une grande lumière. Mais ce peuple marchait où? Dans les ténèbres. Tu ne peux pas voir la lumière si tu es dans la lumière. Tu vois la lumière uniquement quand tu es dans les ténèbres. Amen. Parce que si la lumière vient dans la lumière, tu vas être ébloui, tu ne vas rien voir. Ça t'aveugle même plutôt. Ça t'aveugle. Ça t'aveugle. Dans Marc chapitre 8, le verset 22 à 26, Marc 8, 22 à 26, la Bible parle de la ville de Bethesda dans laquelle il y avait un jeune aveugle à qui on va mener vers Jésus pour la délivrance. Et la Bible dit que Jésus, pour pouvoir guérir cet homme, va le conduire hors de la ville de Bethesda. Hors de la ville de Bethesda. Et après plusieurs tentatives, il va délivrer cet homme de son aveuglement. Et à la fin de l'histoire, la Bible dit qu'il va recommander à cet homme de ne pas retourner dans la ville. Amen. Il y a des lieux, soit ça t'amène en haut, soit ça t'enterre. Il y a des zones, des régions, des endroits, soit ça t'élève, soit ça t'enterre. Chaque terre, chaque territoire ne peut t'accepter qu'après avoir reçu un mandat de toi ou bien de ton supérieur. La terre parle. Qui t'a mandaté à Douala pour prospérer? Qui t'a mandaté à Yaoundé pour prospérer? Qui t'a mandaté à Ndoubon pour prospérer? La terre parle. La terre est une entité spirituelle. C'est pourquoi dans nos villages, rien ne se faisait sans parler à la terre. On versait toujours une libation de vin. Ça, c'est pour les ancêtres, que la terre, et on a ce langage dans nos villages, que la terre de nos ancêtres te soit. Ça n'a rien de biblique. La terre des ancêtres ne sera jamais légère pour un mort qui n'a pas Christ. Amen. C'est une parole de consolation que le diable a donnée aux hommes. Dites aussi ça pour vous en sortir. Mais il est déjà scellé. Son cas est déjà scellé. La terre lui sera légère s'il a Jésus dans son cœur. S'il n'a pas Jésus, c'est foutu, il va en enfer. Amen. Il va en enfer. Vous voyez? Et donc Jésus ne l'a pas guéri dans la ville de Bethsaïda, mais l'a amené hors de cette ville pour qu'il soit guéri. Après le miracle, il lui a été dit de ne pas retourner dans la ville. De ne pas retourner dans la ville. Dans le livre de Luc, chapitre 24, le verset 29, le verset 49, la Bible nous parle de la ville de Jéricho, de Jérusalem, qui était l'adresse d'expédition du baptême du Saint-Esprit. Le Seigneur dit explicitement à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, d'attendre là la visitation, la promesse. Alléluia. Et Jésus va donc dire de se rassembler et d'attendre la promesse du Père. Et s'ils avaient attendu ailleurs, ils n'auraient jamais reçu le Saint-Esprit. Nous sommes dans la semaine Pentecôte. Nous parlons également de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Dis avec moi, Seigneur Jésus, conduis-moi dans le lieu de ma bénédiction. Seigneur Jésus, conduis-moi dans le lieu de ma bénédiction. Seigneur Jésus, conduis ma famille dans son lieu de bénédiction. Seigneur Jésus, conduis mon mari, ma femme dans son lieu de bénédiction. Seigneur Jésus, conduis ma maison dans son lieu de bénédiction. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un lieu où ta vie doit trouver son essor. Si tu n'y arrives pas, ce sera que pleurs et lamentations. Pleurs et lamentations. Il y a un endroit appelé Jérusalem où Dieu a ordonné de vous bénir et de vous propulser dans votre grandeur. Puisses-tu y arriver au nom de Jésus? La Bible nous parle également d'un autre personnage très intéressant que Dieu a dirigé les pas. Et cette personne s'appelait Élie. Un roi, chapitre 17, le verset 2 à 9. Lorsque Élie a eu des problèmes sérieux avec la reine Jézabel, la Bible dit, Dieu va le diriger vers le torrent de Kérit. Amen. Et là, Dieu va lui donner à manger. La Bible dit des corbeaux. Dieu va ordonner aux corbeaux de lui donner à manger pendant 40 jours. Et lorsque le ruisseau va s'assécher, Dieu va ensuite le diriger vers Sarepta, là où il y avait une veuve à qui Dieu, selon ce qu'il avait dit à Élie, avait ordonné de lui donner à manger. Alléluia. Oui, mes bien-aimés. Il aurait pu mourir avant son heure s'il n'avait pas été dirigé, s'il n'avait pas été conduit vers le lieu de sa destinée. Mes bien-aimés, le lieu de ta destinée est un lieu, même si le sec produira la nourriture pour toi, même si le sec pour les autres, pour toi, ça produira du fruit frais. Alléluia. Du fruit frais. Alors, si vous êtes au mauvais endroit, vous lutterez sans résultat dans la vie. Et beaucoup de gens sont au mauvais endroit. Vous savez, bien-aimés, beaucoup de gens vont à l'étranger et croient que parce qu'ils sont à l'étranger, ce sera facile pour eux comme pour tout le monde. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Il y a des gens que Dieu a destinés pour prospérer au Cameroun. Ils quittent le Cameroun, leur vie sera que l'ombre d'eux-mêmes. Il y en a que Dieu a destiné d'aller aux États-Unis prospérer, d'aller en Allemagne prospérer, d'aller ailleurs prospérer en tout cas. Alléluia. Mais il y en a d'autres. Pour eux, c'est ici. Ils bougent, tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est pourquoi il est important de savoir si le projet que tu engages pour aller à X endroit, c'est là où Dieu t'attend. Si Dieu ne t'attend pas là-bas, tu vas tourner en rond. ça ne marchera pas. Ça n'aura rien aux malédictions de vos familles. Ça n'aura rien à voir avec toutes les hôtels sataniques qui ont été bâtis dans votre famille. Ce sera juste que tu n'es pas là où Dieu t'attend. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde vend les paires de chaussures, ça marche, que toi, tu peux vendre, ça marche aussi. C'est pourquoi même le projet d'affaires dans lequel tu t'engages, rassure-toi que Dieu y est. Et la présence de Dieu ne veut pas dire qu'à tous les coups, on va acheter toutes tes marchandises. Non. Ça veut dire que tu auras des difficultés. Sinon, Dieu devient un gris-gris. Dieu n'est pas un gris-gris. Il a écrit une parole importante. L'homme mangera la sueur. Voilà. Ça dit que si tu manges sans la sueur de ton front, c'est suspect. Alléluia. Pardon? C'est, Dieu n'est pas dans ce que tu ne transpires pas. Parce que c'est une loi naturelle, une loi spirituelle. Tout le monde y est soumis. Même le bandit pour voler transpire. Alléluia. Bon, maintenant, la nature de ce que tu gagnes, ça te regarde. Dieu traitera avec toi. Parce qu'il y a des gens qui volent à la sueur de leur front. Ils obéissent à la loi, n'est-ce pas? La sueur. Alléluia. Maintenant, c'est avec Dieu qu'ils vont gérer à la fin. Le vol là, je ne suis pas dedans, tu vas en enfer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu es escroc à la sueur de ton front. Alléluia. Tu as 10 bureaux dehors. Tu prends à gauche, tu pars donner à droite. Tu prends à droite, tu pars. Non, c'est à la sueur. Parce que gérer 3 gars ou bien 2 femmes ou bien 3 femmes dehors, c'est le cerveau, hein? C'est un génie. Pour qu'elles ne se rencontrent jamais, pour qu'ils ne se rencontrent jamais, pour qu'ils ne soient jamais au courant l'un de l'autre. Mais tu es fort. Tu dois avoir un doctorat. Alléluia. Pour que personne n'ait aucune pensée dans la tête que toi, chacun quand il arrive, c'est que toi, tu es unique avec lui. Oh, oh. Là, tu dis, c'est un Mboutoukou. Nandame Fondos. Mboutoukou, c'est la nourriture des bandits. C'est ce que la pyro des mangas nous disait. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Tout ça, c'est la sueur. Mais l'origine de ton bien là, tu répondras devant le Seigneur. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Alors, vous manquerez aussi vos provisions dans la vie parce que Dieu ne pourvoit pas au besoin de quelqu'un que s'il le trouve à l'endroit où il veut qu'il soit. Amen. Le Seigneur dit à Moïse que quoi? Là-bas, je te bénirai. Alors, si tu n'arrives pas là où Dieu te veut, la bénédiction ne sera pas avec toi. Si Jérémie n'était pas arrivé dans la maison du potier, il n'aurait jamais écouté la voix de Dieu. Si Abraham ne s'était pas séparé de Lot, il n'aurait jamais réécouté la voix de Dieu. Il y a certaines positions dans la vie. Tant que tu les gardes, Dieu ne fonctionne plus avec toi. Tant que tu es dans cette position, Dieu n'est plus avec toi. Ce soir, je viens prier pour quelqu'un qui a peut-être perdu le chemin et qui ne sait même pas par où fonctionner. Que Dieu t'oriente au nom de Jésus. Qu'il t'éclaire sur ton chemin au nom de Jésus. C'est pourquoi David a dit quelque chose. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. David pouvait discerner le chemin à la lumière de la parole de Dieu. Alors, tu ne peux pas discerner le chemin à partir de ton intelligence, à partir de ta sagesse, à partir de ta beauté, à partir de tes tours de forme, les formes de ton corps, à partir de ton tour de règne. Non! La lumière sur le chemin. Alléluia. La lampe à tes pieds. La parole. La parole. J'ai connu une jeune fille. Je vous ai toujours partagé ce témoignage. Elle, dans sa famille, on l'avait donné, initié pour être le. Elle avait comme totem le dauphin. Amen. Et si vous regardez le dauphin à la télé, il est tellement attractif. Tellement attractif. Quand la jeune fille rentrait dans une salle, tous les hommes se retournaient. Elle m'a dit un jour, pasteur, tu sais, une dame est venue me voir, elle a dit que ma fille, tu es trop belle. Je suis prêt à te payer pour que tu épouses mon frère. La dame lui a donné 2 millions de francs. Amen. Elle était vraiment jolie. Et elle me dit, et elle était la petite sœur d'une star de ce pays que je ne peux pas citer le nom. Alléluia. Et cette star aussi, elle-même n'est pas mariée. Et elle est attractive. Attractive. Et donc, elle me disait, j'entrais dans une salle comme ça, tous les hommes se mettaient à genoux et me donnaient de l'argent. Toutes les sommes que je voulais. Toutes les sommes que je voulais. Mais elle savait que cette histoire devait l'amener très loin. Elle pouvait être devant les hommes très joyeuse, très gaie, mais quand elle rentrait chez elle, elle se saoulait avec l'alcool, avec la drogue pour pouvoir dormir. Elle était dépressive parce qu'elle se haïssait, elle haïssait son corps. Elle ne comprenait pas pourquoi elle vivait tout ça. Jusqu'à ce que il y avait toujours un voisin là qui passait le temps à dire « Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Tu vois, les gens, les frères que vraiment, ils s'en foutent même de tout. Vraiment, il est tout là, ma soeur. Tu es là? Je vais te parler de Jésus. Alléluia. Chaque jour, le frère passait devant la maison et lui disait, Jésus t'aime. Un jour, le frère est repassé. Le jour, la nuit, elle avait beaucoup pleuré. Le matin, le frère, il a encore dit, Jésus t'aime, de prier la nuit là jusqu'au matin. Le matin, elle a dit que ton église est même ouf. Mon église est à tel endroit. Et elle a dit, je veux venir. Et le jour-là, c'était une croisade d'évangélisation à l'église. Elle est arrivée. Elle a enlevé son matelot qu'elle avait. Elle a mis une robe. Elle a trouvé la robe la plus décente possible qu'elle avait dans la maison parce qu'elle n'en avait pas de décente. Il fallait que ce soit le plus court pour attirer le maximum d'hommes. Alléluia. Donc, elle a cherché la robe la plus décente. Et elle est arrivée à l'église. Elle était assise à un niveau, allée vers la fin. Le pasteur a commencé à prêcher et le pasteur a parlé d'une histoire. Et ça semblait être son histoire. Et le pasteur a dit, quelle que soit la situation où tu es là maintenant, Jésus est prêt pour toi. Tu peux juste venir ici devant. Jésus te délivre aujourd'hui. Il te pardonne. Cette vie de prostitution. Et c'était une prostituée de luxe. Elle est quittée à l'arrière. Elle est venue. Les gens étaient là. Elle s'est mise à pleurer abondamment de son côté. Et pendant qu'on conduisait les gens à Jésus, elle acceptait le Seigneur Jésus dans son cœur. Elle pleurait. Après le passage, que les autres rentrent, elle est restée là. Elle continue à pleurer. Une maman est venue dire que ma fille, du courage. Tu peux te. Elle dit, laisse-moi pleurer. Tu ne sais pas d'où je sors. Le passage dit, laissez-la là. Ouais. L'histoire de cette fille. Aujourd'hui, elle est mariée à un pasteur. Elle est mariée à un bon frère. Elle est enseignante. Amen. Sa dépression est finie. Jésus l'a délivrée. Mais il fallait qu'elle soit à un lieu précis. Amen. Il fallait qu'elle soit à un lieu précis. Et parce qu'elle avait connu toutes sortes de désillusions dans sa vie, elle se disait, le mariage, ce n'est plus mon affaire. J'aime Jésus, je m'abandonne à Jésus. Je suis Jésus. Les hommes, ça ne vaut pas la peine. J'en ai connu de toutes sortes. Donc, c'est plus important. Je me focalise sur le Seigneur. Et j'avance. Il y avait un frère qui semblait être intéressé par elle, Et donc, chaque jour, quand il passait, il avait sa vieille moto, il la portait derrière pour la, ça lui facilitait le transport. Et le soir, quand il dit, soeur, on rentre ensemble. Ah. Et bien aimé, ce n'est pas parce que vous rentrez ensemble que vous êtes fait pour être ensemble. Pour vous calmer. Amen. Et c'est comme ça que, et comme elle avait aussi une bouche, vous savez, quand tu as une vie un peu injalade, tu ne connais pas. Je ne mets pas l'ordre dedans. Ça sort comme ça sort. Donc, quand le frère bavarde, un matin, le frère dit que une femme comme toi, qui ne connaît pas comment elle parle, on ne peut même pas épouser une femme comme toi. Elle dit, je t'ai dit qu'elle veut que tu m'épouses. Fiche le camp. J'ai marché à pied. Il dit, je ne te porte même plus. J'ai marché à pied, parti à l'église. Et c'est comme ça qu'elle allait tous les jours. Le pasteur la regardait. Le pasteur la regardait. Et le frère qui devait l'épouser, il était à l'école des enseignants. Il a fini l'année là. Quand il arrive, il trouve la fille. Et naturellement, celui qui avait la moto était son ami personnel. Il dit, bro, c'est comment? Il dit, allez ça. Comme ça, va manger pour lui, il a saboté le dossier. Alléluia. À quel endroit es-tu? Je vous ai toujours dit, bien aimé, l'endroit n'est pas toujours un lieu physique. L'endroit, ça peut être aussi une personne. Ça peut être une personne avec qui tu t'associes. Ça peut être une personne avec qui tu marches. Ça peut être une personne avec qui tu partages les intentions, les projets de ta vie. Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que tu avais la bonne personne? Quand nous parlons de lieu de destinée, parfois le lieu de destinée, c'est la personne avec qui Dieu te met demain et qui change ta vie. Boaz a rendu la vie de Ruth exceptionnelle. Boaz, par le mariage, a introduit Ruth qui était d'une lignée maudite et l'a amené à être l'ancêtre de Jésus. Le mariage. C'était son lieu. Alléluia. Qu'est-ce que sa belle-mère lui a dit? Va chez Boaz, couche-toi à ses pieds. Bien-aimé, comment elle a fait pour entrer dans la maison de Boaz? Aller retrouver sa chambre. Hein? Il était au champ. Il y avait plusieurs personnes. Et tout le monde sait que dans la loi juive, une femme qui n'était pas mariée se couchait à côté d'un homme qui n'était pas marié et qu'on l'ait trouvé, on la lapidait. Et le gars a senti la présence, il s'est réveillé, il a vu Ruth, il a dit, lève-toi, j'ai compris ce que tu veux me dire, pas. Je veux faire le nécessaire pour que ton nom soit honoré. Amen. Mais bien aimé. Alors, quand nous parlons simplement Abraham, ça pouvait être, c'était un lieu. Mais pour toi, ça peut ne pas être un lieu. Ça peut être une rencontre, une personne spécifique qui est pour toi comme une aide de destinée. Lorsqu'il rentre dans ta vie, tu exploses. Lorsqu'elle rentre dans ta vie grimpe. Je prie pour toi. Que Dieu te donne des rencontres surnaturelles. Que Dieu te donne des rencontres qui vont transformer ta vie, qui vont transformer ta famille, qui vont transformer tes affaires, qui vont transformer tes projets au nom de Jésus. Oui. Alors, laissez Dieu vous guider vers le lieu de votre bénédiction. Vous pouvez vivre dans une maison en tant que locataire pendant plus de 20 ans sans rien tirer de la vie. Mais dès que vous déménagez, votre vie change. Une dame qui a vécu plus de 15 ans avec, plus de 20 ans, plus de 15 ans dans un mariage, elle n'avait pas le fruit des entrailles. Et le monsieur passait le temps à lui dire, c'est toi la cause. Jusqu'à ce qu'elle était convaincue qu'elle était la cause du manque d'enfants dans le foyer. Tout le temps, il fallait négocier. Parce que le monsieur et sa famille s'étaient assis sur son cerveau. Et le monsieur lui faisait le chantage. Elle était obligée de payer le mariage, payer la paix avec son salaire. Elle payait tout pour être en paix avec son mari, pour être en paix avec sa belle famille, pour avoir un jour de sourire et d'appréciation. Et un jour, le mariage n'a pas tenu. L'homme a dit, OK, on va au tribunal, on arrête cette histoire. Et la dame a dit, OK, comme c'est toi qui mène le débat, je te suis. On déchire le papier, chacun va de son côté. Et c'est comme ça ils ont divorcé. La dame est partie. 2 ans plus tard, elle a connu un homme. Et 6 mois de relation, elle est tombée enceinte. À peine l'autre était sorti du ventre, qu'elle tombait encore enceinte. On est allé annoncer au gars. Il s'est caché. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des personnes avec qui tu vas rester, tu vas t'associer, qui vont te faire croire que ta vie n'est rien à partir d'eux. Mais lorsque tu vas quitter cette relation, lorsque tu vas te séparer de ces personnes, comme Abraham s'est séparé de Lot, la lumière du Seigneur va éclairer ta vie. La lumière du Seigneur va éclairer ta destinée. Tu vas devenir visible. Visible. J'ai prié avec un homme de Dieu un jour et le Seigneur m'a indiqué des choses dans sa vie. Et je lui ai dit, voilà ce que Dieu me montre, voilà ce que le Seigneur me montre. Il dit, amen, c'est la vérité. Je lui ai dit, voilà un programme de prière, prions, va chez toi et prie avec ta famille et Dieu va te montrer des choses. Bien aimé, c'est une famille qui croupit dans les lignes de la pauvreté. Personne n'a la capacité d'aider l'autre. Lui-même qui est pasteur, il ne peut pas dire que son sort est mieux que pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Il est rentré chez lui. Lui-même était ministre de prière. Il n'avait jamais, depuis qu'il conduisait les gens dans la délivrance, et même pour lui-même pour prier, il n'avait jamais eu ce genre de vision. Cette nuit-là, il a eu un songe. Dangereux. Ce songe, il dit qu'il s'est retrouvé quelque part dans une cour, il avait un seau d'eau où il partait se doucher. Et alors, il est allé à un endroit où il y avait comme un arbre. Il s'est accroupi, il a pris l'eau, il a versé sur lui. Il dit que l'eau est montée, mais l'eau qui était fraîche est redescendue sur lui, chaude. Alors, curieux que l'eau ait changé de nature, il a essayé de regarder en haut. Et il a réalisé qu'au-dessus de l'arbre, il y avait un géant qui était couché, qui causait l'ombre autour de lui. Et cet homme était tellement géant. Alors, il a dit, mais, donc c'est cet homme qui fait que je ne peux rien voir. Il a donc commencé à commander le feu de Dieu, le feu de Dieu. Il dit, le feu quittait, le feu, c'était comme si c'était les piqûres de moustiques. Et donc, le géant, il était couché sous l'arbre et il, de temps en temps, il touchait un peu comme ça, il touchait, il se grattait un peu, il se gratouillait. Après, il a insisté. Le géant a compris que quelqu'un était en bas, en train de le chauffer. Il a levé les yeux, il a regardé. Il me dit, frère, la paume de la main du géant là, c'était tout mon bras comme ça. Il m'a regardé avec tellement de colère. Et quand il s'est levé, la lumière est sortie. Vom! J'ai dit que frère, voilà ce qui vous bloque à la lumière. Voilà. Voilà. Dieu va dire un jour à Abraham, parce qu'Abraham avait tellement attendu Isaac. Il pleurait un jour sous la tente. Dieu va lui dire, viens, sors de la tente, viens dehors. Et quand il va aller dehors, Dieu va lui dire, regarde les étoiles du ciel, voilà le nombre de tes enfants. Ensuite, il va lui dire, regarde le sable de la mer, voilà le nombre de tes enfants. Amen. Mais pourquoi Abraham pleurait? Pourquoi Abraham était dans une sorte de confusion? Parce qu'il était au mauvais endroit, il était sous une tente. La tente limitait sa vision. Il y a des choses comme ça qui limitent notre vision. Et nous ne pouvons pas voir au-delà d'un certain seuil. Et du coup, la tente devient notre réalité de vie. Ce soir, j'ai dit, sors de cet espace au nom de Jésus. Sors de cet endroit au nom de Jésus. Sors de cette prison au nom de Jésus. Et vois la lumière de Dieu dans ta vie. Vois la lumière de Dieu pour ta famille. Au nom de Jésus. Vous voyez? Il y a des forces comme ça, bien-aimés, qui gouvernent les réalités de nos vies. Rappelez-vous dans le livre de Daniel chapitre 10. La Bible dit qu'un jour, Daniel va s'asseoir, il va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 70 ans. Il va dire, Seigneur, on a déjà fait 70 ans. Tu avais dit qu'à cause de notre péché, on devait faire 70 ans en captivité. On est déjà à la fin. Pourquoi on n'est pas libre? Pourquoi on n'est pas libre? Alors la Bible dit qu'il va se résoudre de prendre un temps de jeûne devant Dieu. Nulle part il a écrit qu'il a dit qu'il va prendre le jeûne de 21 jours. Hein. Il avait commencé un jeûne qu'il ne savait pas le jour que ça devait finir. C'est nous qui disons le jeûne de Daniel 21 jours. Il n'avait pas, il avait dit tant que Dieu ne répond pas, je ne m'arrête pas. Il a jeûné un jour. Alors que la Bible nous dit vers le 21e jour, l'ange va venir le visiter. L'ange va dire que depuis le premier jour que tu as eu à cœur, tu as pensé seulement dans ta tête, Dieu a intervenu. Mais il ne voyait rien. Pour beaucoup d'entre nous, Dieu a déjà intervenu. Dieu a déjà répondu. Mais on ne voit rien. Pourquoi? Et l'ange va lui dire ce qui s'est passé. L'ange va lui dire, au moment où la visitation a quitté le ciel, il y a eu une autorité qui plane au-dessus de l'atmosphère où tu étais. Il s'appelle le prince des Perses. C'est lui qui a l'autorité. C'est lui le checkpoint satanique. Tu ne peux pas aller en consamba sans payer le checkpoint. Dans le monde des ténèbres, il y a aussi le checkpoint. Et l'ange va lui dire, écoute, il a fallu que Dieu envoie le... À cause de ton intercession persistante, si tu t'étais arrêté, le gars-là aurait continué à régner. Mais parce que tu as persisté dans ce temps de prière, Dieu a envoyé le secours. L'ange Michel. Et Michel est venu débusquer ce démon-là. Et c'est pourquoi la délivrance est là maintenant. Alléluia! Que Dieu t'envoie le secours dans cette bataille. Que Dieu t'envoie le secours dans cette bataille. Que Dieu t'envoie le secours dans cette bataille. Pour libérer ton espace spirituel. Pour libérer ton espace de ta destinée. Au nom de Jésus! Alléluia! Beaucoup de destinées sont bloqué ainsi. Beaucoup de destinées sont liées ainsi. Alléluia. Et bien aimé, ce soir nous sommes venus identifier ces lieux. Il y a un endroit pour la formation et un autre endroit pour la manifestation. Amen. Il y a aussi certaines bénédictions, expériences spirituel, message percé que vous ne pouvez pas recevoir tant que vous n'êtes pas dans un lieu particulier et à un moment précis. Dans le voyage de la vie, la question de l'emplacement est vitale. Tant que vous n'êtes pas au bon endroit, vous ne pouvez pas obtenir le bon résultat, quelle que soit votre intelligence. En fait, vous pouvez vivre un paradis fermé si vous vous trouvez au mauvais endroit. L'une des clés du succès, bien-aimé, pour trouver son lieu de destinée, c'est de se trouver au bon endroit et au bon moment, au bon jour et à la bonne année, ainsi qu'avec les bonnes personnes. C'est très important. L'endroit où vous vous trouvez détermine également le type d'amis que vous gardez et les personnes avec lesquelles vous vous associez. Amen. Je répète. L'endroit où vous vous trouvez détermine également le type d'amis que vous gardez. Et les personnes avec lesquelles vous vous associez. Cela détermine en fait jusqu'où vous pouvez aller dans la vie. Si vous vous trouvez, si vous vous trompez d'endroit, vous risquez de manquer votre destinée, de manquer votre but. Tout investissement que vous faites au mauvais endroit est une perte de temps et d'énergie. Que tu ne fasses pas d'investissement au mauvais endroit. Que tu ne fasses aucun investissement au mauvais endroit. Que tu ne fasses aucun investissement au mauvais endroit. Que tu ne sèmes pas dans la mauvaise terre. Au nom de Jésus, ni toi ni ta famille, que personne ne sème au mauvais endroit. Au nom de Jésus. C'est une perte de temps, perte d'énergie. Perte de temps, perte d'énergie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Tout ce qui concerne votre destinée est lié à une géographie. Et il y a un aspect spirituel et physique de cette géographie. Environ 20%, bien-aimé, des succès reposent sur une localisation correcte. Amen. Sur une localisation correcte. Si tu n'as pas une bonne localisation, aie toute l'intelligence que tu veux dans la terre, ça ne marchera pas. Aie toute la beauté qu'il faut dans la terre, ça ne marchera pas. Vous allez voir des belles femmes se retrouver avec un faux jeton toute leur vie. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Mauvais investissement. Mauvais investissement. J'écoutais une femme dire que si j'avais su, vraiment, les ministres, les directeurs qui m'ont demandé la main, Dieu, cet homme s'est fait quelque chose dans ma vie. Il n'a rien fait. Tu as été séduit par ta propre convoitise. Tu as préféré investir sur ce que tu vois au moment précis, pas sur le futur. Beaucoup de gens investissent sur le temps présent, mais refusent d'investir dans le futur. De voir plus loin que leur difficulté de vie. De voir plus loin que leur situation sociale. De voir plus loin que leur situation familiale. Alléluia! C'est compliqué. C'est compliqué. Que Dieu nous donne la grâce, le discernement, au nom de Jésus. Vous deviendrez l'ombre de ce que Dieu veut que vous soyez. Vous aurez ce qu'on appelle des inhibiteurs, des absorbateurs, des absorbeurs spirituels qui vont absorber toute capacité en vous. Alléluia. Oui. Vous ne connaîtrez pas non plus le genre de personnes que vous êtes censé être. Si vous êtes dans la mauvaise église ou le mauvais lieu de culte, par exemple, vous pouvez recevoir des fausses prophéties qui feront de vous une personne confuse dans la vie. J'ai rencontré tellement de personnes parce qu'ils ont été dans la mauvaise communauté. Pas en termes que c'était une communauté satanique. Hein? Non, c'était une bonne communauté, mais ce n'était pas la leur. Amen. Ce n'était pas la leur. Et du coup, ils ont reçu des paroles qui les ont amenés à droite, alors qu'ils étaient censés aller à gauche. Et ça les a perdu du temps, ça les a pris du temps pour qu'ils puissent retourner en arrière et retrouver le point de départ. Alléluia. Et bien aimé, c'est pourquoi dans la vie spirituelle, dans la vie que nous menons, que nous vivons là, n'oublie jamais que ta vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Alors, tout ce que tu vas écouter spirituellement, venant de toute autorité spirituelle, qu'il soit marabout, qu'il soit pasteur, qu'il soit prêtre, tu dois utiliser un discernement au-delà de toute mesure. Amen. Parce que ce que tu vas bouffer là-bas, l'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain. Pain là, c'est quoi? C'est logos. Mais de toute parole, parole ici vient de Rhéma. Toute parole, toute révélation. Alors, toute révélation qui sort de la bouche de quelqu'un qui dit qu'il vient de Dieu, suit ta vie, fais attention. Ne dis pas amen, 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 amen. Alléluia. Ne dis pas, oh, je confirme Dieu, Dieu a pas. Prends le temps. Jean dit que quoi? N'ajoutez pas foi à tout esprit. Éprouvez tout esprit. Mais ils disent parce que certains faux prophètes se sont introduits dans la maison de certaines forces, de certaines femmes faibles. Amen. Alléluia. J'ai connu un prophète très tôt dans ma marche chrétienne que je suivais énormément et dont j'étais un peu comme son collaborateur. Amen. Je le suivais, on partait partout. Frère, ce prophète-là, il arrivait dans une maison comme ça. Il dit, Dieu me dit que tu me donnes ton matelas, tu me donnes ton lit, tu me donnes ton gaz. Et on portait, on mettait. Il avait chez lui les matelas comme ça, les bouteilles de gaz. Je crois qu'il pouvait même faire la vente de gaz dans le quartier. Il voulait ouvrir. Alléluia. Et c'est comme ça, j'étais jeune dans la foi. Il me dit que frère, viens. Le Seigneur me dit que viens, va à gauche, va. J'allais seulement. Je savais que Dieu était là. J'allais seulement. Je disais, Seigneur, tu vois la sincérité de mon cœur. Je suis, Seigneur, je suis. Et je l'écoutais. Jusqu'à ce qu'on arrive à Yaoundé, on rend ministère dans une maison. Il accompagne. C'est moi qui l'introduis dans la maison. Et prophétie. Les gens ne font que dire, ce qu'il dit là, est-ce que c'est même vrai? Bon, on dit quand même amen. On part de là la nuit. Tout le monde accouche de nuit. Le matin, le grand frère qui était dans cette maison m'appelle, il me dit, mon petit, je te respecte, je connais ta vie chrétienne. Je te connais intègre dans ta vie chrétienne. Alors, je vais te donner un conseil. Toi et ton ami, là, ne passez pas ici, sinon on va vous lapider. Le matin, il me réveille, il m'appelle, il dit, « Brother, il faut qu'on aille là-bas voir comment la gloire de Dieu. » Il dit que non, je sens dans mon esprit qu'on ne doit pas aller. Je sens dans mon esprit. Alléluia. Je sens dans mon esprit. L'esprit nous résiste, frère. Il a dit, « D'accord, ok, comme tu dis. » Deux jours après, on l'a appelé, on l'a menacé. Il dit, « Il m'appelle, dit, « Brother, c'est Dieu qui t'a parlé. » Tu sais qu'on devait nous finir là-bas. Alléluia. À cause de cet incident, je lui ai dit un matin, tu sais, l'affaire de Dieu, s'il ne faut pas trop courir, donne-moi le temps d'aller un peu réfléchir sur tout ce que nous sommes en train de faire. Ah, il n'a pas aimé. Il m'a maudit, frère. Hein? Ça veut dire que tu remets en question que Dieu m'utilise. Hein? Tu ne réussiras pas. Rien de bon ne se passera pas dans ta vie. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas prendre mon temps de retraite. Et c'est comme ça que j'ai coupé les ponts. Quand j'ai connu un frère avec qui on marchait avec cet autre-là, je lui ai dit, tu as les nouvelles? Il m'a montré un SMS. Il a dit que frère, j'ai essayé de le contacter. Regarde le SMS. Malédiction. Vous, tout ce qui m'avait quitté, vos vies, moi, oh, le tonnerre, oh, bon. Alléluia. Amen. Donc, fais attention. Qui te nourrit spirituellement détermine le niveau que tu arrives. Alléluia. Celui qui te nourrit spirituellement va influencer ta vie à chaque niveau. Alors, ne permets pas que n'importe qui, alors que tu n'as aucune conviction devant Dieu et que tu n'as aucune conviction devant Dieu en ce qui concerne sa vie, son caractère, puisse influencer ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand vous allez voir certains frères, certains chrétiens, suivre certains pasteurs, faire comme ce pasteur-là. Alléluia. C'est très compliqué. Faire comme ce pasteur-là. S'habiller, aimer les mêmes choses. Si demain, il voit comment à la télé, il a porté que vert, rouge, jaune. Le jour, il coupe que vert, rouge, jaune dans l'église. Alléluia. Il dit que je suis mon père. Je suis mon père. Alléluia. Ça devient très compliqué. C'est pourquoi votre relation spirituelle détermine votre niveau d'élévation. Je répète, votre relation spirituelle détermine votre élévation spirituelle. Il faut faire attention à ça. Fais attention. Donc, ce soir, je voudrais que Dieu t'oriente
sur ce que tu vas faire.
Je voudrais que Dieu t'oriente sur ce que tu vas faire. Je voudrais que Dieu t'oriente sur ce que tu dois faire. Alléluia. 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 Dis avec moi, oh Dieu, interviens en ma faveur et conduis-moi dans le lieu de ma destinée. Conduis-moi au contact des personnes de ma destinée. Conduis-moi au milieu des personnes de ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis avec moi, au nom de Jésus. Mes pas, mes pieds, conduisez-moi dans mon endroit de bénédiction. Mes pieds, conduisez-moi dans mon lieu de grâce. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et prier? Prie, prie, prie. Déclare tes pieds, déclare tes pieds de te conduire là où Dieu veut, là où Dieu t'attend. Yada, gada, gada, gada. Seigneur, conduis-nous, conduis-nous, conduis-nous. Conduis-nous vers le lieu de notre percée, vers le lieu de notre bénédiction. Oh, reba katalo toko 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 to. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.